Sur Radio Panique.
Ouais, et là, on passe, même si la voix ne change pas beaucoup, on passe à Djiboutique, comme tous les mardis entre 18 et 19h. Vous savez qu'on vous parle des musiques du monde, des événements et des cultures qui concernent ces musiques du monde.
Tout et de rien, quoi, Hubert, en somme.
Bah, disons qu'on est, on élargit pas mal.
Non, en fait, bon, oui, c'est vrai qu'on élargit pas mal, et justement, aujourd'hui, on va élargir un petit peu, puisque...
Poussons les murs du studio.
Cette programmation, cette thématique transversale, il faut bien s'y plier à notre façon,
ouais, donc, parce que si on le fait pas nous-mêmes, qui le fera?
Voilà. Et donc, on va le faire aujourd'hui avec ce sujet, ce nom, les langues enchantées.
Ouais.
Alors, c'était manière d'évoquer des langues qui sont pas trop parlées, des langues un petit peu mystérieuses peut-être.
Voilà. Ouais. Ouais. Hein, le jeu des langues avec les dialectes qui sont aussi parlés par des minorités. Ouais.
Des choses assez locales.
Voilà, ça. Tout à fait.
Voilà. Bon, on va commencer avec donc un groupe qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps et dont on a déjà passé les extraits ici, le groupe Canzoniere Grecanico Salentino, qui vient du sud de l'Italie, les Pouilles, et qui, dans certaines chansons, mais déjà dans le nom du groupe, Canzoniere Grecanico Salentino, il y a cette langue, le Grico ou Grecanico, une langue d'origine grecque qu'on parle dans le sud, dans certains villages du sud de l'Italie. On va écouter un petit extrait donc de cette interview, cette rencontre avec Mauro du groupe Canzoniere.
In example, we still speak more than Italian in Salento, our dialect that's called Salentino. And as well, there is an area in the core of Salento with some villages where you can find an old dialect of Greek origin called Grecanico or Grico. And these two languages, these two dialects, are important.
Voilà, il y a une petite traduction donc Mauro qui nous explique que dans le sud de l'Italie, on trouve donc le Salentino, qui est un dialecte italien. C'est une des langues qu'on trouve en Italie, mais aussi un autre qui est plus vieux, qui s'appelle le Grico. Et pour lui, c'est important de chanter non seulement Salentino, puisque bon, c'est vrai une langue locale, très locale. Pour lui, c'est important d'utiliser une langue, cette langue locale, et qui pour lui fait qu'il est une personne assez unique. Bon, à l'heure actuelle, on parle de mondialisation et tout ça. Lui, il a vraiment quelque chose de chez lui, et il trouve ça très important, tout autant que justement le Grico. Voilà, il nous explique le nom donc du groupe et les deux langages qu'on utilise. Et puis, c'est un recueil de chansons. Le nom du groupe signifie recueil de chansons en Grico et en Salentino. Alors, bon, c'est vrai que le Grico apparemment fait partie de ces langues qui sont en voie de disparition, puisque elle est parlée par très peu de gens, surtout les personnes plus âgées. Il y a quelques jeunes qui savent un petit peu le parler, mais bon, c'est rare. Et puis, il va nous expliquer comment est-ce que ils font pour utiliser le Grico.
He's from Calimera, that belongs to that area. Calimera means good morning. Mm-hmm. Good morning in Greek. And he understands a bit of Grico. He can speak a little bit. And my father is from Lendugno or in Follecce.
Alors, il explique l'origine donc d'un des musiciens du groupe, celui qui joue du bouzouki, qui s'appelle Emanuele Lecce, qui vient justement du village de Calimera dans le sud de l'Italie. Calimera qui veut dire bonjour, en grec. Et bon, ils expliquent comment est-ce qu'ils font pour faire des chansons justement en gricot. Alors c'est pas pour la chanson qu'on va écouter la suite, ils ont pris un vieux texte et ils ont remodelé certaines choses, on va dire. Et c'est eux qui ont fait la musique parce qu'il n'y a pas toujours une connexion entre. Ils ne font pas que des chansons traditionnelles avec un texte qui existe déjà. Ici, pour cette chanson, ils ont pris un texte et ils ont fait un accompagnement musical, mais bon, ils ont fait surtout un travail du texte et ils ont eu la collaboration d'un certain Franco Cordiano qui a fait une retranscription du refrain de la chanson.
We write new compositions, either in Greek or in Salentino, that describe the reality of nowadays.
Ah, okay, so the Emanuele can write in Greek or maybe.
Emanuele, not, but there are some people that can write new lyrics, mm-hmm. and or you can choose to use. Old poems, old texts, and put some new melodies when the lyrics are not connected to already to a traditional song. You can use those poems and write new music. And we did this, for example, in the last album of the Pizzica Indiavolata of Canzoniere Gagnico Salentino. The second track, it's called Aremon Megapa, is an original music with the traditional Greco. Words and the refrain that has been written by a scholar from Calimera called Franco Corleano. We asked him for the translation of a verses that we wanted to put in the song, and then we created the music and a totally new song.
On écoute donc cette chanson dont on a parlé, Aremuan Megapa. Du groupe Canzoniere Grecanico Salentino. Et puis bon, on en continuera avec les accents du Cap-Vert. Et puis on n'a pas parlé aussi aujourd'hui de tous nos sujets, mais on va finir avec un petit voyage en Asie.
Ouais.
Au Laos.
Pinna
voilà, sur Djiboutique, c'était le groupe Canzoniere Grecanicos Salentino avec cette chanson en grico, une langue un petit peu en voie de disparition dans le sud de l'Italie et qu'ils essayent de, ils l'alimentent par leur créativité. On va passer donc maintenant alors aux musiques du Cap-Vert puisque Hubert a eu l'occasion de rencontrer une chanteuse de là-bas, Carmen Sosa, et apparemment, c'est les accents du Cap-Vert font partie de son travail.
Oui, en fait, donc, elle est née au Portugal, mais vivant dans une famille d'origine capverdienne. Et donc, voilà, influencée, grandie dans la culture, les us et coutumes du Cap-Vert. Et donc, elle utilise le créole du Cap-Vert dans son chant. C'est ce qui est le plus naturel pour elle. Elle n'a pratiquement jamais chanté en portugais, hein, bien que étant née à Lisbonne. Elle a chanté un petit peu en français et elle chante de temps en temps en anglais. On va d'abord écouter une chanson de son tout dernier album qui est en créole du Cap-Vert et vous allez entendre, enfin, si vous avez l'oreille vraiment
fine,
vous allez entendre que c'est différents créoles qu'elle utilise dans une même chanson.
Dans une même chanson.
Et pour quelle raison ? Parce qu'elle utilise les sons de la langue comme un instrument de musique et que en jouant d'un créole à l'autre, elle peut obtenir des rythmiques différentes et des sonorités différentes. On écoute d'abord une chanson, puis on va l'écouter en interview puisqu'on l'a rencontrée il y a 3 semaines de Roma à Anvers. Et puis on fera une petite traduction puisque elle parle pas mal de langues, mais là le français est assez limité pour elle. Elle parle en portugais et on vous traduira tout ça.
Boca grande, bota flamas. E vai virar cá pra brincar. E vai virar pra te esparar. Tão cansada a brincadeira do que vou fazer. Vou com pinta pagada. Te alimenta, bota respeito. Vou fazer verba pra calar. Já nota pra patinha, bota boca grande, bota flamas. Frescura de juventude. Cadê consciência, cadê coitada? Já cria Deus, gaba tá bem e te pensou. Nada que me cante só, pode uma petinha, não sei. Pode a cota pra que fica. Frescura de juventude, pra ter consciência, cadê coitada? Vida é seu sorriso na chão. O corpo é minha cabeça, fácil. Gaba linha já cria Deus, gaba tá bem e te pensou. Nada que me cante só, pode uma petinha, não sei. Pode a cota pra que fica. Pode me Jetzt tust du selber, oh, der Kater packe flipp.
Bem, o crioulo, para já, porque é a língua de Cabo Verde, é o dialeto de Cabo Verde e é a sonoridade que eu cresci a ouvir. Mas o meu crioulo é muito misturado, porque o que acontece é que eu gosto de brincar com os vários, os diferentes accents do crioulo, porque de ilha para ilha existem maneiras diferentes de falar. Existe o crioulo de Santo Antão, existe o badiu, que é o crioulo da praia.
Ah, je fais une petite traduction simultanée. Le créole, c'est parce que c'est la langue, le dialecte du Cap Vert, la sonorité dans laquelle j'ai grandi. Mon créole est très mélangé. J'aime jouer avec les différents accents du créole parce que d'île en île, il existe des manières différentes de parler. Il y a le créole de Saint-Anton, l'île duquel elle vient, le badiou, de Praia, etc., etc. Chacun possède une musicalité différente et je peux jouer avec ça quand j'écris les textes et faire ainsi que le langage même devienne un instrument de musique conjointement à ma voix. Mais je chante aussi en anglais, qui est ma troisième langue, parce que j'habite maintenant à Londres. J'ai chanté une fois en portugais une chanson de Zeca Afonso, vous connaissez Zeca Afonso, un des grands chanteurs du Portugal, une chanson qui s'appelait Os Bravos, une expérience intéressante, et peut-être un jour je chanterai en allemand ou en français, ça pourrait arriver. Alors je lui demande pourquoi cette chanson en français, Sous le ciel de Paris. Elle me répond, c'est une chanson interprétée par Edith Piaf, je trouve la musique si jolie, le texte aussi, cela parle du ciel de Paris, de ses différentes humeurs, et moi je lui demande pourquoi la chanter en français, et elle me dit que le français est une langue aussi très musicale, et on va tout de suite entendre ça dans un petit remix de la chanson en français. D'abord par Edith Piaf et puis par Carmen Sosa.
Même ton musical, non? Si.
Paris s'envoie une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le corps d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Paris. Un philosophe assis, deux musiciens, quelques bateaux, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'en soir, vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvent drame, oui, mais à Paname, tu peux s'arranger quelques rayons du ciel d'été d'accordéon, tout marinier, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris que le fleuve joyeux il endort dans la nuit les clochards et les cœurs. Sous le ciel de Paris les oiseaux des bons dieux viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son à
vida. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait grandir sur son tonnerre éclatant.
Toujours sur Djiboutique, comme tous les mardis, entre 18 et 19h. Vous nous écoutez sur Radio Panique 105.4 FM. Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site radiopanique.org. Et les podcasts sont disponibles quelques jours après l'émission. Alors, toutes les émissions sont disponibles sur notre site www.djiboutique.be.
Djiboutique avec un K.
Ah, bien sûr. C'est un K. Alors,
merci Hubert pour cette chanson excellente là.
Voilà, donc c'était Carmen Sosa, une chanteuse capverdienne qui nous racontait son utilisation des langues et des différentes sonorités du créole du Cap-Vert.
Puis c'était une bonne manière aussi de la, enfin je sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, mais de voir un petit peu en test comment elle parle le français. Enfin qu'est-ce qui ressort de son accent à elle ou de sa façon de parler qu'est-ce qui transparaît dans le français. C'est amusant de chercher ça. Je sais pas si c'est ça qui t'a guidé ou juste autre chose.
Pas spécialement, mais l'intérêt qu'elle avait pour les langues, effectivement, pour chanter dans une autre langue que sa propre langue, c'était intéressant, effectivement.
Et c'est une belle chanson.
Ouais.
Ouais, Caroline. Bonjour, Caroline. Caroline qui nous rejoint.
Et
bonjour.
Avec qui on va finir ce tour d'horizon. Donc après le sud de l'Italie, le Cap-Vert, moi je vais vous emmener donc au Laos pour découvrir des langues qui soit sont en disparition, enfin en danger, on va dire, soit moins, hein, comme on verra avec le Hmong, avec laquelle on va commencer.
Mais le Hmong, je sais pas comment on le dit, mais...
Le Hmong, oui, c'est vrai qu'il faut prononcer ouais, hein. Le H. Et donc après, on verra avec d'autres langues, mais ça c'est pour la fin de l'émission.
Alors, en attendant d'avoir Paul Lorsignol de l'ICRA, donc une association qui défend les droits des peuples autochtones, au téléphone, peut-être tu peux... Nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait aller dans ces endroits, enfin rencontrer ces gens. Donc, est-ce que c'était le fait qu'ils vivaient de façon isolée? Enfin, comment ça s'est mis dans ton agenda de voyage? C'était un peu ça ma question.
Ah oui, donc à la base de ce projet, donc c'est voilà un voyage de 3 mois en Asie. Et c'est vrai qu'après, pour terminer ce voyage, donc on est allé au Cambodge et au Laos. Et moi, mon souhait, c'était d'aller un peu plus profondément, explorer là, ou plutôt les cultures de ces pays-là. Et c'est vrai qu'on a fini au Laos et en Thaïlande en faisant des treks. Donc un trek de 2 jours au Laos et un trek de 2 jours en Thaïlande. Évidemment, dans ces treks, donc on dormait chez l'habitant. Donc pour le premier trek, on a dormi dans un village Camou, mais on était accompagné par un guide Camou et un guide Hmong, donc ce qui nous permettait d'en savoir un petit peu plus sur à la fois la culture Camou et à la fois la culture Hmong. Et puis en Thaïlande, on a dormi dans un village Lahou et on avait des guides Lahou et Karen, donc voilà, on a un peu exploré ces cultures et donc ces langues-là et leur musique.
Et ça t'a plu enfin le contact, tout ça s'est bien, enfin ça t'a plu, ça t'a
Oui, ça m'a plu et le contact est assez facile, évidemment, parce que c'est, ce sont des personnes bon, qui parlent aussi anglais. Donc, c'est sûr que là, c'est plus vrai. Facile d'avoir un contact avec eux. Ce qui était évidemment plus difficile, c'était d'avoir un contact vraiment avec les villageois, parce qu'il aurait fallu avoir le guide tout le temps avec nous, ce qui n'était pas le cas, pour traduire. Et puis bon, bah, du coup, là, ça se fait par un intermédiaire. Donc, avec les guides, assez facile. Et oui, ça m'a énormément plu parce qu'on redécouvre une diversité ou une pluralité culturelle que nous on n'a plus. Alors peut-être en Belgique, si, encore beaucoup.
Nous, la
mais,
France.
Voilà. Donc moi qui suis française, c'est vrai qu'il y a tellement eu une harmonisation, une uniformisation au niveau linguistique. On oublie que voilà, qui dit culture dit aussi langue différente, histoire différente. Et donc c'était très chouette de voir ça, quoi.
Ok, ben avant d'écouter tes reportages avec enfin les rencontres avec ces personnes, donc ils parleront en anglais, hein, mais ils expliquent, enfin voilà, ils témoigneront. On va parler avec Paul Lorsignol d'ICRA qui est au téléphone. Bonjour Paul, tu nous entends ?
Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Alors, c'est une très bonne nouvelle.
On a un petit contact prévu puisque bon Paul est assez occupé mais il a pu par téléphone par GSM normalement portable nous rejoindre
peut-être
nous rejoindre
pour le moment la technique fait un petit peu frein à cette jointure.
Paul n'est pas encore là mais donc il y a les Hmong et les Camus mais il y en a une donc qui est beaucoup plus enfin qui représente un nombre de locuteurs beaucoup moins important que l'autre donc les Camus sont moins importants au niveau du nombre.
Ouais, exactement, c'est 5 fois moins puisque il y a moins de 500 000 locuteurs du Camus notamment enfin qui sont situés pour la plupart au Laos. Le Hmong, c'est pas du tout le Hmong, c'est pas du tout la même problématique puisque c'est parlé par 2,5 millions de personnes. Alors, comme nous le dit voilà Barbara Niederer, qui est chercheuse au CRLAO, donc le Centre de recherche linguistique sur l'Asie orientale, qui dépend du CNRS, ça pourrait être un nombre considérable, hein, 2,5 millions de locuteurs, c'est une grande langue. Mais le problème avec cette culture, avec ce peuple, c'est qu'il est un petit peu disséminé dans le monde entier. Parce qu'en fait, à la base, donc les Hmong, c'est une ethnie qui vivait au sud de la Chine. Et ils ont été un petit peu chassés par les Chinois. Donc, sous la pression des Chinois, ils ont dû un petit peu voilà, déménager. Et donc, ils sont partis au Laos, dans le nord du Vietnam, en Thaïlande également. Et puis après, ce sont aussi apparemment un petit peu les Harkis de l'Est asiatique. Pour avoir pris parti avec les Occidentaux, ils ont dû partir après de ces pays-là, du Laos et du Vietnam. Donc, ils ont été accueillis en grand nombre aux États-Unis, en France aussi. Il y en a énormément. Alors ça, c'est étonnant. En Guyane, moi, quand je suis rentrée de voyage, j'ai dit « Ah bah oui, on a rencontré des Hmong. » Et quelqu'un m'a dit qu'il venait de Guyane. « Ah bah oui, des Hmong, j'en ai rencontré plein aussi en Guyane française. » Donc voilà, ils ont été aussi accueillis là-bas. Donc c'est une grande communauté, mais vraiment disséminée à travers le monde. Voilà. On commence avec la chanson en Hmong.
Pourquoi pas puisque
est-ce qu'on passerait pas le téléphone
ah,
le téléphone
ça y est, il
s'est
est...
réglé apparemment.
Ok, parfait. Eh bien, alors on va accueillir Paul Lorsignol.
Bonsoir.
Ah, bonsoir Paul. Voilà, bon, on a déjà présenté un petit peu le contexte de vie donc des Hmong, enfin leur histoire en quelque sorte. Alors comme on l'avait dit un petit peu il y a quelque temps, vous êtes ICRA, vous occupez principalement des peuples autochtones, mais la question des minorités linguistiques, ethniques vous intéresse aussi. Alors quelle est votre approche? Quel est le lien avec les autres minorités, enfin ou les peuples autochtones, au niveau de la problématique?
Eh bien, En réalité, bon, effectivement, ICRA s'intéresse à tout ce qui est peuple minoritaire, peuple premier, plus exactement. Bon, les appellations varient un petit peu je dirais, d'une institution à l'autre ou d'une association à l'autre. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur Terre, nous sommes pratiquement 6000 peuples. Avec à peu près 200 pays indépendants, ben, on a un grand nombre d'ethnies minoritaires qui ont un corpus de traditions qui leur sont plus ou moins propres, plus ou moins partagées avec leurs voisins, et qui ont aussi, le cas échéant, une langue toujours parlée, toujours vivante. Alors je dis le cas échéant parce que malheureusement, bien les langues minoritaires ou les minorités en tant que telles sont très rarement reconnues, voire même combattues par des politiques d'assimilation assez fortes. Et donc, les langues, petit à petit, ne sont plus transmises, ne sont plus valorisées. Les écoles mises en place par les gouvernements sont les vecteurs des langues dominantes. Et donc, il y a une marginalisation progressive de ces ethnies, à la fois sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, souvent considérés négativement comme des arriérés, des gens qui véhiculent un mode de vie qui ferait honte à une nation moderne. Hein. C'est un petit peu la vision, malheureusement, de beaucoup de gouvernements dans le monde. Et bon, bien sûr, il y a une marginalisation aussi sur le plan linguistique. Et donc, dans les 6000 ou sur les 6000 langues parlées sur la Grande Bleue, on a des langues qui disparaissent, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais probablement tous les mois, parce qu'il faut imaginer que tout à l'heure, vous parliez des Hmongs, on a 2,5 millions de locuteurs, c'est une bonne chose, mais on a quantité de langues parlées sur Terre qui ne sont plus parlées que par 2, 3, 5, 10 locuteurs, et parfois très âgés, avec la jeune génération qui l'ignore complètement ou qui maîtrise encore peut-être quelques mots, et c'est un drame, c'est une perte en tout cas claire de diversité, d'ethnodiversité, de richesse, si on veut, de la planète sur le plan humain, de mode de pensée, puisque la langue c'est d'abord un véhicule pour un mode de pensée particulier. Et bon, nous au niveau d'ICRA, avec les populations, on essaie effectivement avec les petits moyens qui sont les nôtres, mais de soutenir différentes initiatives comme vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué par rapport au Vietnam, qui est un des petits aspects de nos projets finalement.
Alors c'est peut-être je vais pas dire que c'est facile, mais au niveau conceptuel, quand on a donc des petits groupes qui sont c'est vrai qu'il y a des traditions qui se perdent, mais il y a quand même aussi encore un reste de tradition. Alors le travail d'ICRA, c'est d'essayer de soutenir cette tradition, de montrer qu'il y a un intérêt, c'est important pour ces petits peuples, je pense.
Bien sûr, oui.
Donc peut-être tu pourrais expliquer, oui, un petit peu la démarche.
En pratique, comment ça se passe,
oui, nous, notre démarche, je dirais qu'elle est, somme toute assez simple, dans l'idée que on va généralement par contact, par voyage sur place, parce qu'on a quelques personnes dans l'association qui sont des cinéastes, documentaristes, des journalistes passionnés par ces questions-là. On va très souvent rencontrer des minorités, et au sein de ces minorités, parce que tout le monde au sein d'une minorité n'a pas forcément les mêmes sensibilités, hein, autrement dit, il y a des gens qui s'en fichent complètement et d'autres se sentent très concernés. Et parmi ces gens très concernés au niveau des différentes ethnies, on a des gens qui mettent en place déjà des petits projets et qui disent, voilà, il faut aller interviewer et enregistrer les anciens qui s'expriment dans la langue et qui vont déclamer les mythes traditionnels, enregistrer les gens qui connaissent encore les chants traditionnels, les proverbes, etc., qui sont d'une richesse infinie au Vietnam, notamment dans les minorités du Vietnam. Il faut les interviewer, mais pour ça, il faut des tout petits moyens financiers. Et je dois dire qu'on a pu sauvegarder comme ça, mais littéralement des centaines d'heures d'enregistrement en langue vernaculaire, donc langue de ces minorités, mais avec des sommes qui étaient peut-être de 200-300 euros, parce qu'il fallait un peu d'essence pour la mobilette du gars qui devait aller dans des villages reculés, trouver encore les anciens qui ne les connaissaient, payer une jarre d'alcool de riz parce que ça se déclame d'une façon rituelle, ritualisée, Et donc, ça ne peut se faire qu'avec un partage d'une jarre de riz, d'alcool de riz plutôt à l'ancienne. Il faut parfois faire un sacrifice de poulet aussi. Ça peut paraître bizarre, mais il y a un contexte à respecter pour accéder à, parfois à ces textes sacrés. En l'occurrence, donc, là, c'est vraiment des textes sacrés. Et bien, ça, c'est une initiative purement locale, interne à la minorité, avec... dans certains cas, quelques Vietnamiens hors de ces minorités, mais qui étaient conscients de la perte pour leur pays que représentait la disparition de ces langues, de ces cultures. Et puis nous, on agissait, je dirais, un petit peu par un petit financement, un petit coup de pouce. On a fourni un ordinateur. Les textes sont sortis finalement clandestinement, parce qu'autant dire que les autorités n'apprécient pas du tout ce genre de démarche. Donc quand je dis qu'on a une démarche simple, en se mettant à l'écoute des populations et de soutenir leurs projets, c'est souvent très compliqué parce que les autorités dominantes voient ça d'un très mauvais œil, hein, que ce soit sur le plan culturel ou même d'une aide, je dirais, plus alimentaire, ça passe parfois très très mal. Et tout à l'heure, vous le disiez très bien, des Hmong, on en trouve un petit peu partout, on en trouve en Guyane française, on en trouve en France, on en trouve aussi aux États-Unis, mais on a aussi de nombreux membres de ces minorités du Vietnam, qui sont répartis sur la France, les États-Unis, et on a créé comme ça une petite chaîne de solidarité tribale mais internationale, hein, par rapport à ces ethnies, ce qui fait que les textes étaient envoyés aux États-Unis, retranscrits avec un alphabet quand même assez particulier, inspiré d'alphabet latin, mis en page, imprimé et ramené clandestinement au Vietnam à l'occasion de voyages entre guillemets touristiques pour revenir dans les minorités, pour ramener ces textes enfin mis par écrit, enfin disponibles, pour que des Jorai ou des Zede puissent faire des classes dans les maisons longues traditionnelles, et encore ces grandes maisons rituelles qui existent dans certains villages, et où des classes clandestines étaient mises en place pour résister à justement l'école officielle qui est bienvenue, mais qui pour l'instant ne fait aucune place à ces cultures et à ces langues. Donc voilà, on peut imaginer, je pense, toute la complication que représente le soutien de ce type de projet, mais on pense que ça en vaut la peine parce que les gens sur place nous disent, nous on y tient, on veut transmettre ça à nos enfants, même si ce n'est qu'une minorité des enfants, parce que il faut admettre que s'il n'y a pas quand même un changement radical, une prise de conscience des autorités locales, bien ces langues disparaîtront définitivement. Et c'est un travail qu'on ne fait pas non plus uniquement au Vietnam, on est tout à fait intéressé avec tout un tas de projets, de soutien médicaux chez les Touaregs, chez les Mursis de la vallée de l'Oman en Éthiopie, des projets culturels chez les Nagas au niveau de l'architecture traditionnelle. Donc les Nagas sont un de ces peuples de la Birmanie et de l'Inde qui est assez extraordinaire par sa culture d'une très grande richesse. Donc on a quand même une vision, je dirais, et des contacts relativement larges. Donc tout à l'heure, on parlait du Vietnam. Bon, oui, ça représente un de nos aspects. On a la chance d'avoir une dame très âgée maintenant, mais qui a passé plus de 20 ans chez les Hede, qui parle parfaitement leur langue et qui a ses contacts et qui nous a dit, voilà, là, on a des types qui ont une initiative et il faut la soutenir et on a besoin de ces bénévoles qui sont indispensables puisque c'est une petite assoce purement bénévole.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Bien sûr, bien sûr.
Ok, alors Paul, je crois, on a encore une petite question,
oui.
Et puis on passera au témoignage de Caroline, puisqu'on a des témoignages des gens de ces régions-là.
Mm-hmm. Alors moi, je voulais juste savoir par rapport à ces langues minoritaires, est-ce que c'est pas les garder dans un certain isolement, justement, de conserver cette culture Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, de garder les gens dans une certaine région qui puissent pas trop bouger, vu que les langues, ils peuvent pas communiquer avec le reste du monde
Moi, je dirais que c'est pas la question. Le but, en tout cas, à la fois de ICRA, on n'est pas des doux rêveurs romantiques et avec une vision complètement décalée. Je crois qu'on a pas mal de gens, je dirais, de terrain sur place qui partagent le vécu, le quotidien, et on suit quand même très très fort le discours de nos amis, de nos contacts dans différents peuples. Les Touaregs, les Keltamachek, plus exactement du Mali et du Niger, ce sont des gens qui disent, voilà, nous on parle un dialecte berbérophone, on y tient, on veut le garder, en plus il a une écriture, un alphabet propre, le titulaire, qui est véhiculé par les femmes. Mais le français est important aussi. En D'accord. Algérie, l'utilisation de l'arabe sera aussi importante pour eux, parce que c'est une ouverture sur le monde et que ces peuples ont besoin d'avocats, pas seulement au niveau d'ICRA, qui est un tout modeste porte-parole, mais parce que c'est au sein de ces peuples qu'on doit avoir des gens qui maîtrisent, je dirais, à la fois les questions juridiques, les langues ben oui, dominantes, pour pouvoir se défendre, tout simplement. Parce que maintenant, je crois que les gens ont compris, dans l'immense majorité des cas, que se défendre, si on a un Indien d'Amazonie, c'est plus avec des flèches comme les grands-parents pouvaient le faire, mais plutôt par la parole, par des enregistreurs, par la sauvegarde de la culture. Quelque chose que nous faisons aussi, et je pourrais peut-être conclure par là, c'est qu'on soutient des initiatives d'Indiens, de groupes amérindiens du bassin du Xingu au Brésil, en Amazonie brésilienne. À la fois on lutte contre les plantations d'OGM et la déforestation, etc., parce que c'est leur problématique, c'est la crainte qu'ils ont, mais on leur fournit aussi du matériel caméra, parce qu'eux décident de faire des films documentaires sur leur propre cérémonie, où ils utilisent là aussi leur langue, et où eux mettent en place toute une série de micro-projets qui touchent l'artisanat, le maintien de la tradition, la mise en image de toutes ces choses, le maintien de la langue traditionnelle, qui est important, parce que le portugais est nécessaire, mais si le portugais tue la langue autochtone, c'est un danger. Alors, beaucoup de peuples ont perdu leur culture linguistique, mais restent quand même malgré tout fiers de leurs origines et gardent malgré tout une certaine cohésion. Je crois qu'il y a beaucoup de peuples, par exemple, en Amérique du Nord, la situation des langues est catastrophique dans la plupart des groupes. Malgré tout, les gens disent, moi j'ai personnellement beaucoup d'amis au niveau des Lakota, donc ce qu'on appelle les Sioux, les Cris, etc. Et ce sont des gens qui fiers et qui s'affirment tels qu'ils sont.
Excuse-nous, Alain, mais
heureusement, le temps court, Paul, mais merci beaucoup pour toutes ces explications, ces
On en reparlera parce que c'est vachement intéressant, hein, mais
ce sera un plaisir de revenir vous retrouver, parler à vos auditeurs, en tout cas.
Écoute, on va être actifs pendant quelques semaines, là, plus encore que d'habitude sur ces questions-là, alors peut-être qu'on aura encore besoin de toi. Merci beaucoup en tout cas.
Bonne soirée à toi.
Au
revoir.
Au revoir.
Voilà. Et pour rebondir, c'est vrai qu'on va avoir les premiers témoignages. Alors moi, ce que je retiens aussi de cette intervention, c'est la difficulté. Bon, par exemple, on parlait des mangues. Là, il parlait des petites ethnies. Donc déjà, c'est difficile de mettre les gens en contact. Mais imaginez chez des mangues qui ont des chants traditionnels, mais qui, comme on l'a vu nous aujourd'hui ou hier sur YouTube, font aussi de la pop musique. Donc faire le lien entre les générations, c'est aussi quelque chose qui doit pas être évident.
Ben, sans doute que la pop musique qui est très universelle doit rassembler quelque part ces gens-là, plusieurs générations.
Peut-être, Hubert.
Et ça montre que c'est vivace. Au moins. Voilà. Il y a une production de la jeune génération.
Voilà. Ouais. Et donc, Caroline, bienvenue. Et puis, on va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Donc, on a présenté ce peuple et cette culture mong. Donc, je propose qu'on écoute le seul enregistrement en mong qu'on ait. C'est donc une chanson chantée par Sou.
Niagé, la bing hai rong wa lua, hana mong cha si neng na e si jai tua, hala zo cha te chung du na la nia chung jon cho nia leng cai li de ko. Hello, son dia toi, lu shua kan ji, ni jie, ni leng cai, jia le zuo zha de zhong du, no e jia han zhong zuo zuo gu ni leng cai lin de ge. Hello, shua ka ji tua, lu shi mo luan ci, zi leng du shua zhao, shua neng lo zuo zha de zhong du. Lai shi no, e nian zhong zuo ji zao da tua, lu shi gua ti, o ming tang gao meng. Okay.
Okay, comme ça.
Voilà.
Voilà, donc le son Mong. Alors malheureusement, Sue n'a pas pu nous traduire ce qu'il a chanté. Donc il y a quand même 2,5 millions de locuteurs Mong dans le monde. Donc il y en a peut-être un au moins qui nous écoute. Et alors s'il nous écoute et il a compris, il peut appeler à la radio 02. Pour nous aider pour la traduction.
02 732 04 50.
On fait le 0032 peut-être avant. Hein.
peut-être.
Pour ceux qui nous écoutent au Laos.
Voilà.
Bon, on va rester au même endroit, c'est-à-dire dans les montagnes du nord du Laos. Et on va écouter maintenant l'interview d'une personne issue de l'ethnie Kamou. Donc voilà, cette ethnie plus minoritaire, hein, 450 000 locuteurs.
Ok, hello. Oh, my name is Demen. I'm from north of Laos, like Phongsali province. And my real name is Bun Pang Si. Yeah. My tribe is like Kamou.
Mon nom est Le Man. Je viens du nord du Laos, des environs de Phongsali. Mon vrai nom est Kung Kersi. Ma tribu est Kamou. Mon père est Mong, mais ma mère est Kamou. Je peux donc comprendre le Mong et parler le Kamou. Ma première langue, c'est le Kamou. Ma deuxième, le Mong. Ma troisième, le Lao. Puis l'anglais, l'espagnol, un peu de français aussi. Qu'est-ce que tu penses pour le futur de ta langue et de ta culture? Moi, je pense que le futur, enfin, c'était plus il y a 30 ans, je pense que dans le futur, les gens ne parleront plus Kamou, parce que les gens travaillent à l'extérieur, à Vientiane, les gens vont dans les villes et ils oublient leur culture. Donc tu penses qu'ils parleront là-haut? Oui, je pense qu'ils parleront là-haut. Enfin, c'est trop loin le futur pour... Ouais, on ne peut pas dire. Le Kamou a en fait des racines cambodgiennes. En 825, les Kamous sont venus au Laos du Cambodge.
Le Kamou et le Cambodge sont presque les
Voilà, le Kamou et le Khmer, hein, la langue parlée au Cambodge, ont à peu près la même prononciation. Et quand ils sont venus au Laos, les Kamous, c'était les premiers. La plupart des Kamous étaient les premiers. Puis les Laos sont venus, puis les Mong.
Voilà, je crois qu'on a écouté la totalité de l'interview de ce locuteur Kamou. Son nom, c'était ?
C'était le Man, The Man. Et évidemment, c'est son surnom. Ils ont tous des surnoms, c'est assez rigolo, parce qu'ils ont des noms assez longs. Donc, ils ont tous des petits surnoms. Donc, lui, c'était The Man, l'homme. Voilà.
Et alors, on va continuer avec une chanson en Kamou.
Voilà, une chanson en Kamou. Et donc, pour la traduction qu'on a faite, Man, c'est une chanson qui parle d'un Kamou parti enrôlé dans l'armée par ses parents, et c'est une chanson qui lui souhaite bonne chance pour revenir sain et sauf chez lui. C'est une chanson apparemment qui fait aussi beaucoup référence à la croyance aux esprits, puisque les Kamous, les Mong aussi sont animistes et croient beaucoup aux êtres surnaturels, aux esprits. Donc c'est une chanson aussi qui invoque les esprits pour lui souhaiter bonne chance.
Ah. Yoyet monbri kandan yoyet sanam amreng chigai amman huay lo tai ki am yarma ro an hem rnyam le nyam me tai go am long wong duan nong yet ngo si nung sam Hem thuk rnyam dayam Yobriang ki bram lau krai yude Da teng kili Sok yu lech a kon buan Tai chak song pi hok duan Chi buan ga yet rom yo Tai yet da kal Yang mua go mua lang bri Em yet da luang ken ni Yang mua kung mua gan Duan ak ko rai Chi gai bu phem muan mang San nya da an ge tang Som wang muan a tra ge
tarnem tai ne hem bun le a ma an hem mot un den kam nun bu sa tai ne yet ja go te ngo hem tai ter ge dro si mot bun mok rin kong den mong be gu nyam le.
Voilà, encore une chanson en camou cette fois. On est toujours au Laos, mais cette fois, c'est du camou. Et je crois que Caroline a encore rencontré d'autres gens, d'autres ethnies de là-bas dans le sud-est.
Exactement. Donc là, on va passer la frontière et on arrive en Thaïlande. Et donc, où on a rencontré des personnes de l'ethnie Lao. Donc là, c'est à peu près le même nombre de personnes et de locuteurs que le Camou, donc environ 450 000 recensés à la fin du XXe siècle.
Et donc c'est Lao, L-A-U cette fois.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, on a parlé de la langue, le Lao, mais maintenant c'est...
Oui, voilà, c'est le Lao, le Lao, L-A-H-U, et donc complètement différent du Lao. Mm-hmm. Ouais, même s'il y a des Lao... Au Laos, attention, ce n'est pas la même chose. Là aussi, c'est comme le Hmong, en fait, c'est un groupe ethnique qui était dans le sud de la Chine et qui, sous la pression chinoise, s'est déplacé vers la Birmanie, la Thaïlande, un petit peu au Laos, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a à peu près 80% des Laos qui sont en Thaïlande. Voilà, donc on va terminer ce petit voyage par une chanson chantée par des femmes. En Lao. Et donc, chose intéressante, on entend pas mal de Alléluia dans la chanson, que j'ai remarqué après, que j'avais pas remarqué le Jumain. Donc peut-être que ça montre l'influence des missionnaires qui étaient venus à l'époque.
Et qui ont poussé aussi à s'intéresser à la langue et à transcrire aussi.
Parce que beaucoup de transcriptions de ces langues viennent des missionnaires qui sont arrivés là et qui se sont dit mince, c'est des langues orales et nous, pour les apprendre et les transmettre, on a besoin de les écrire. Donc beaucoup de... Ouais, première tentative de transcription des langues viennent des missionnaires, ouais.
Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on va se quitter. Donc, c'était un plaisir, Caroline, de t'avoir aujourd'hui.
Plaisir partagé.
Et puis, merci Nat pour la technique.
Avec plaisir.
Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine, tout à fait. On continuera avec autour des langues, mais cette fois-ci, les langues de Belgique, les langues minoritaires ou en danger, en voie de disparition de Belgique, le Wallon.
Excellent, très bien.
Le Picard, le Francisque.
D'accord, voilà. Des langues qu'on ne connaît pas.
On ne sait même pas.
On est curieux d'apprendre.
On revient chez nous la semaine prochaine.
Voilà, retour à la maison.
Allez, bonne soirée à tous.
Ouais, bonne soirée.
Ciao.
Obo ujame, obo ujame, obo ujame kalao. Hallelujah, hallelujah, obo ujame kalao.